Actu SF, les podcasts.
Je suis très content de recevoir Guy Coste pour Rétrofiction, donc qu'il a coécrit avec Joseph Alterac. Et donc, vous nous aviez donné déjà les Terres Creuses avant, chez le même éditeur, là, chez Ancrage Belles Lettres, qui était déjà un maigre opuscule de 800 pages.
On appelle ça le fascicule, oui.
Voilà, le fascicule sur les Terres Creuses. Et maintenant, Rétrofiction, alors vous avez voulu vous surpasser 2464 pages quand même.
Oui, et encore, on s'est limité parce que l'éditeur piaffait à la fin, comme on a mis 11 ans à le faire. Il a perdu patience et il a fallu à un moment fixer nous-mêmes une deadline pour pouvoir lui remettre le manuscrit à temps. Ceci dit, on aurait pu faire 3 ou 4 ans de plus, ça nous aurait aussi arrangé parce qu'on s'aperçoit qu'on est obligé dès à présent de prévoir un supplément qui va paraître dans le prochain numéro du Rocambole. Voilà. Donc s'il y a des gens accros à ça, ils peuvent d'ores et déjà retenir le prochain numéro du Rocambole. Qui possède une centaine d'entrées, donc c'est pas rien. Je veux dire, tous les bons copains nous ont attendu la sortie du livre pour nous donner les compléments, bien sûr, pour pas qu'on soit trop complet. Ceci dit, ça paraît beaucoup. Il y a presque 12 000 occurrences, mais après on va parler de ce que contient le livre. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois parce que quatre siècles de conjectures romanesques et rationnelles résumées en 12 000 occurrences en voulant être complet, ce qu'on n'est jamais bien entendu, mais on a tendu vers la complétude et l'exhaustivité. On se rend compte que quatre siècles qui tiennent dans 2400 pages, comme le dit Jean-Luc, c'est quand même assez peu, même si l'ensemble peut paraître beaucoup et très lourd et très gros. C'est rien du tout. Après, j'ai l'habitude de dire qu'on a l'impression devant cette masse que ça fait comme quand on rentre dans une faculté à la fin d'un cours de mathématiques supérieures où il y a des équations plein de tableaux, on n'y comprend rien du tout. Et en fait, si on a suivi le cours magistral pas à pas, eh bien, on comprend tout et c'est assez simple. Là, c'est un peu pareil. Pour le fabriquer, on a mis du temps, on s'est mis d'accord sur la procédure. Et après, on a échangé par mail de manière à se mettre d'accord pour chacune des entrées.
Alors, on va peut-être revenir là-dessus.
Bien sûr.
Mais il faudrait peut-être expliquer d'abord à nos amis ici présents le sous-titre « Conjecture romanesque rationnelle ».
Alors, excuse-moi, mais ne compte pas sur moi pour t'expliquer ce que c'est. On se revendique de la pensée de Pierre Versin, que j'espère tout le monde connaît ici, qui est un encyclopédiste français vivant en Suisse, mort en 2002. Mais qui a créé la première utopie, enfin la première encyclopédie sur l'utopie, la science-fiction et le voyage imaginaire. Donc il a défini ça comme étant la conjecture romanesque rationnelle, qui n'est pas un terme simple, je l'entends bien, surtout que chacun de ces termes rassemblés côte à côte est encore plus complexe que chacun des termes expliqués un à un. Alors, conjecture, c'est la littérature du possible, de l'imaginaire et du possible scientifique ou pseudo-scientifique. Je prends un exemple, le voyage dans le temps, tout le monde sait que ça n'existe pas, mais après tout, depuis les derniers travaux, on se rend compte que peut-être il y aurait une possibilité, dans 1000 ou 2000 ans, de pouvoir voyager dans le temps. Eh bien, les littérateurs qui ont fait des romans ou des nouvelles ou des dessins sur le voyage dans le temps, sur l'invisibilité, sur le voyage dans le cosmos, sont réunis ici, et on a voulu se limiter dans le temps, parce que sinon, faire ça jusqu'à nos jours, c'était de la folie pure. Déjà qu'on nous traite de fous furieux, on s'est limité au départ à Rabelais, parce qu'on considère que c'est le premier utopiste français à cause de, ou grâce à l'abbaye de Thélème dans son Pantagruel. Et au final, vers le plus près de nos jours, c'est 1951, donc en gros Barjavel, que j'espère aussi tout le monde connaît. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu se limiter au niveau du corpus et surtout prendre une date qui fait date dans l'histoire de la fiction romanesque, qui est l'apparition des premières traductions de la littérature de ce genre, de la science-fiction, dont le mot n'existait pas avant, bien entendu, en 1951 en France. Parce que là, on ne parle que du domaine francophone. Donc vous aurez les Belges, les Suisses, les gens qui ont publié dans les protectorats français, je prends par exemple l'Indochine, le Vietnam, le Maroc, l'Algérie, voilà. Tout ce qui est francophone. Alors, et bien entendu, y compris la France. Et on s'est permis quelques exceptions qui sont soit des dessinateurs, soit des littérateurs, qui ont fait toute leur carrière en France tout en ayant encore une carte d'identité italienne ou espagnole. Parce que la grande majorité de leur carrière a été faite sur le territoire français. Voilà. Alors, je tiens juste à dire une chose en préambule, après on continuera, Jean-Luc, c'est la présence de deux autres auteurs qui nous ont aidés, et pas rien qu'un peu, qui ne sont pas sur la couverture parce que l'éditeur n'a pas fait de contrat avec ces gens-là, mais qui sont sur la page de titre, qui sont Philippe Murat, qui est un médecin, qui nous a beaucoup aidés pour les conjectures scientifiques médicales, et Philippe Etuin, qui est un collectionneur de Amiens, qui est aussi fou que les trois autres auteurs, donc qui nous a aussi beaucoup aidés. Et c'est à leur demande qu'on les a rajoutés et qu'on les a fait travailler. On avait déjà travaillé, Jo et moi, plus de 5 ans avant leur arrivée. Donc, ils ont rattrapé un peu le retard. Voilà.
Alors, peut-être un petit mot, Guy Coste, sur la genèse du projet. Comment est-ce qu'on fait quelque chose comme ça? Alors, vous avez commencé à dire qu'il y a beaucoup d'échanges. Mais d'abord, comment est-ce qu'on a accès à toutes ces sources totalement inconnues?
C'est deux questions différentes, là. Le point de départ, c'est la rencontre avec Joseph.
Joseph Alterac.
On s'est tout de suite compris. On a été présentés l'un à l'autre lors d'une convention à Paris, convention de science-fiction. Ça devait être à la Maison de la Mutualité. Ça devait être Roland Audemars qui faisait cette convention. Et c'était en 81, quelque chose comme ça. C'est Dominique Martel, donc des 42, l'association qui œuvre beaucoup pour la science-fiction, qui m'a dit Guy, il faut absolument que je te présente un jeune, Joseph Alterac, qui s'intéresse aux mêmes choses que toi. Alors, dans la bouche de Dominique, j'ai tout de suite compris que ça allait coller, parce que qu'ils prennent le risque de présenter quelqu'un d'autre au copain que j'étais, il a tout de suite senti que ça allait coller entre nous, et effectivement, la forme de pensée de Joseph est rigoureusement identique à la mienne. C'est-à-dire qu'on a les mêmes goûts, on a les mêmes façons de voir les choses. L'appartenance à la pensée de Pierre Versin était identique, et on ne l'a jamais renié. C'est-à-dire que dès le début, dès l'introduction de Rétrofiction, on dit qu'on rend hommage à Pierre Versin, qu'on essaye de le compléter dans nos modestes moyens, qu'on se limite au domaine francophone, et comme ça qu'est née l'idée. Mais presque dès le départ de notre rencontre. Ensuite seulement, j'ai commencé à rédiger Les Terres Creuses. Lors d'une autre convention, ça devait être à Nancy, j'ai fait lire le premier manuscrit à Joseph, qui m'a dit « Waouh, c'est bien, il faut absolument que je travaille avec toi ». Non pas qu'il voulait se raccrocher au projet, j'avais pas besoin de ça, mais ça l'a beaucoup séduit. Et il m'a dit, il m'a parlé de 2 ou 3 sujets complémentaires que je n'avais pas abordés. Donc il m'a dit, j'arrête tout et on bosse tous les deux. Voilà, c'est comme ça qu'est née Les Terres Creuses. Alors que l'idée de Rétrofiction était déjà dans les tuyaux bien avant. Mais le monde éditorial est fait de telle sorte que les Belles Lettres ont accepté le projet des Terres Creuses parce qu'il était quasiment rédigé. Donc on a travaillé 4 ou 5 ans de plus ensemble, de la manière dont on va parler tout à l'heure, et Les Terres Creuses sont sortis en 2006. Alors on peut dire succès d'estime et succès pour l'éditeur, parce qu'il avait pris un risque en tirant avec un nombre d'exemplaires pour ce type de livre très spécialisé, il faut bien le dire. C'était un risque énorme pour lui, et il a réussi à vendre en 3-4 ans l'ensemble du tirage des Terres Creuses. Ce qui fait que quand on lui a proposé le projet de Rétrofiction, aussi fou qu'il avait compris que nous étions, il a accepté l'idée et il nous a laissé beaucoup de temps. Le temps, je vous ai dit, on a mis 11 ans à faire ça, en rédaction, mais en recherche de documents, ça faisait 40 ans que moi je cherchais, peut-être autant pour Joseph, bien qu'il soit plus jeune que moi, et voilà, donc ça a bien collé. Et il faut dire aussi que il me semble, alors je connais mal le milieu de l'université, mais l'université commence à s'intéresser sérieusement à la science-fiction depuis une dizaine d'années. donc depuis le début de la rédaction de Rétrofiction. Et aucun universitaire, aussi fou soit-il, n'aurait le temps, la patience et l'argent pour faire un début de rédaction de cette taille. C'est évident. Ces gens-là ont une carrière à construire, ont des cours à assurer, donc ils ne pouvaient pas se consacrer à cela de cette manière. Et comme Joe et moi, on avait un peu de temps, moi je travaille beaucoup la nuit, lui il est professeur de mathématiques pour vous dire les choses, donc il a un peu de temps aussi à consacrer à ça. Et le projet l'emballait. À aucun moment, pour vous rassurer hein, sur l'état de notre santé mentale, on a baissé les bras. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a eu une lassitude. On s'est dit, oh non, on arrête, c'est trop compliqué, c'est trop long, trop gros, tout ce qu'on veut. À part des petits moments de faiblesse, mais bon, l'intérêt d'écrire à deux aussi, c'est qu'on se remotive facilement l'un par rapport à l'autre. Et ça, c'est très, très intéressant. En plus, il y aurait eu des fâcheries. Pour se fâcher avec Joseph, il faut vraiment le faire. Donc, non, ça s'est très, très bien passé. Voilà. Il y avait une autre question.
Alors, donc, 40 ans de recherche.
Oui, grosso modo, voir un peu plus.
Alors, est-ce qu'on trouve des nouvelles qui font deux paragraphes dans un journal de province qu'on a arrêté de publier en 1852, etc.
Alors, on parlera de la presse tout à l'heure, voilà. Bien entendu, mais je ne sais pas comment dire. La grosse différence entre Les Terres Creuses et Rétrofiction, c'est l'apparition de Gallica, le site de la BNF, qui a numérisé un nombre de documents absolument incroyables, et y compris la presse. Donc il y a des possibilités de faire des recherches plein texte qui nous permettent de déceler, par des mots-clés savants dont je garde le secret, pouvoir avoir accès à des textes de conjecture romanesque rationnelle. Oui. Il y a nos propres collections. La mienne est ridicule par rapport à celle de Joseph, même si moi je suis plus exigeant sur l'état des volumes ou des textes ou de la presse. Lui, il achète tout dans la mesure où il veut lire le texte. Et puis il faut bien dire qu'il a été soumis, est-ce qu'on peut dire ça, à un traumatisme d'enfance. Quand il a acheté le Versin en 72, il a fait toute une liste de bouquins qu'il tenait absolument à lire. Et il est allé à la bibliothèque municipale d'Elvin, j'allais dire, tu vois, lapsus, de Hermont, qui était sa commune de résidence. Il a montré ça au bibliothécaire, il dit je veux ça, ça, ça et ça. Et aucun des livres, et la liste était longue, n'était présent dans la bibliothèque. Traumatisme terrible. Donc il a renoncé, et il a une sainte horreur d'aller dans les bibliothèques publiques depuis cette époque. Comme quoi c'est viscéral. Donc il s'est constitué sa propre bibliothèque. D'ailleurs, il ne dit pas qu'il est collectionneur, il dit je suis un rassembleur de documents,
voilà, un documentaliste.
Voilà, absolument. Mais ça lui permet de travailler chez lui quand il retrouve ses bouquins de manière plus aisée et sans avoir à se déplacer. Ah ben oui, il passe plus de temps, c'est gentil ce que je dis, mais à chercher les livres que je lui demande à tel point qu'il les rachète plutôt que de continuer à les chercher. Ça nous fait toujours rire. Mais par contre, ça lui permet de travailler chez lui, il n'a pas à se déplacer. Voilà, ça c'est important dans sa vision des choses.
Il y a quand même un point important à souligner avant qu'on commence à rentrer un peu plus dans le détail du contenu, c'est que toutes les entrées qui figurent, tous les textes qui sont cités, les dessins, etc., ont été lus par au moins l'un d'entre vous.
Exactement.
C'est-à-dire que ce n'est pas du recopiage de troisième ou quatrième
génération.
Non,
on a renoncé. Voilà. Enfin, on a renoncé. On a absolument voulu ne pas faire ça. Parce que Internet est rempli de choses qui sont des résultats de copier-coller désastreux. Ouais. Donc, on a voulu... C'était le point de départ du cahier des charges qu'on s'est fait entre nous. De tout vérifier, de tout lire, à tel point qu'il y a quelques oublis, parce qu'on n'a pas trouvé les textes dont on sait qu'ils sont de conjecture romanesque, d'autorité, mais on n'a pas pu y avoir accès. Et Dieu sait si Gallica est quand même précieux, si la bibliothèque de Joe est quand même considérable, la mienne n'est pas négligeable. On s'est fait aider Philippe Murat, qui est un fou furieux absolu, qui nous a beaucoup aidé aussi. Donc, non, c'est que quelques textes, alors j'ai pas de nom à vous citer, mais ne sont pas dans Rétrofiction, parce que nous ne les avons pas lus, même si nous savons qu'ils sont du domaine de la fiction archaïque. Voilà.
D'accord. Alors on va peut-être rentrer maintenant quand même un petit peu dans le, dans le, dans le détail, parce que vous avez cité beaucoup Versin. Versin, c'était la littérature. Alors, il y a de la littérature, bien sûr, oui, qui représente une part non négligeable.
Majoritaire, voilà. Oui.
Bon. Alors,
roman et nouvelle.
Roman et nouvelle. Oui. Roman et nouvelle. Alors, déjà, peut-être, bon, évidemment, il y a tous les auteurs classiques, mais peut-être qu'il y en a certains, moi, j'avoue que j'ai été frappé, parce que le plaisir, c'est de feuilleter au hasard.
C'est l'intérêt du papier, voilà, par rapport à l'informatique.
Ça, c'est le grand
plaisir. On peut se perdre.
On tombe sur des gens dont on ne s'attendrait absolument pas à les trouver comme ayant été des auteurs, pour simplifier, de science-fiction, ne serait-ce qu'une fois. Je pense à Charles Maurras.
Oui.
Charles,
oui,
Maurras, c'est pas le nom qui vous vient à l'esprit à côté de Jules Verne, quoi.
Surtout politiquement, c'est pas tout à fait notre tasse de thé, à vrai dire. Donc, on s'est un peu forcé à le mettre, mais il a écrit des conjectures romanesques rationnelles, très peu, mais qu'on a localisées, entre autres une uchronie. Je fais pas l'insulte de vous expliquer ce que c'est que l'uchronie, à moins qu'il y ait une question. Mais voilà, donc c'est une histoire qui se déroule pas comme dans la réalité, avec un moment de diversion, de digression, d'aiguillage entre la réalité telle qu'on la connaît, les Allemands ont été vaincus en 14-18 par exemple, et il poursuit l'histoire, l'auteur poursuit l'histoire en ayant ce point de rupture. C'est-à-dire que les Allemands ont quand même gagné la guerre de 14-18, c'est pas rien. Et il a fait un roman, une nouvelle, ou des dessins, il y a des dessins d'Uchronie, qui se poursuivent jusqu'à notre époque, ou avant, ou jusqu'à la mort de l'auteur. Voilà, ça c'est une chronique. Et Charles Maurras a été un de ces auteurs-là.
D'autres auteurs,
ça nous a fait hurler de rire.
D'autres auteurs un peu improbables.
Alors, il y a aussi les presque des grands classiques dont on se dit, on va parler de Henriot, par exemple, qui a un bon auteur et un bon illustrateur, dont on croyait cerner, Joe et moi, l'ensemble de l'œuvre. Ça se limite à une dizaine de textes, pour être large. Et puis, en fouillant, on se rend compte que Henriot a publié un strip, donc une bande dessinée avec récits sous images, toutes les semaines pendant 33 ans dans l'illustration. C'est d'ailleurs la seule contribution de l'illustration à la conjecture. Mais pourquoi ça n'était pas connu ? Parce que ça s'était fait sur la couverture, la troisième de couverture de la revue, qui n'est jamais conservée dans les collections publiques. Jamais. Donc il faut reconstituer par les collections privées la date, enfin les numéros de l'illustration qui sont concernés par les dessins de Henriot, surtout conjectureux bien entendu. Il faut absolument posséder la couverture, puisque le relieur, ça c'est une mode dramatique du 19e et du début du 20e siècle, virer les couvertures des fascicules pour gagner de la place, pensant que c'était pas joli, et ainsi de suite. Et Henriot passait à la benne. Donc il faut reconstituer tout ça pour avoir accès aux dessins d'Henriot. Et il en a fait, on en a trouvé, j'ai pas de chiffre précis en tête, mais plus de 80, peut-être 100, qu'on a listés.
Donc
totalement inconnus de nous, à l'époque où on les a trouvés. Après, il y a peut-être des érudits qu'on n'aurait pas lus qui les ont listés. Je n'y crois pas une seconde. Mais voilà un exemple de quelqu'un qu'on croit connaître par, on peut dire, des gens qui connaissent le domaine. Eh bien, pas du tout. C'est une découverte totale. Voilà. Ça, c'est un aspect intéressant dans l'histoire des idées, de se dire, ben, Henriot, oui, il est listé pour 3 ou 4 romans, 2 ou 3 nouvelles. Et en fait, pas du tout. Il a fait une centaine de dessins, en plus exceptionnels, de très grande qualité et très drôle. La vie en l'an 6000 où on mange des pilules à la place des poulets cuits, ça c'est sympa. Il en a fait des plusieurs dizaines comme ça. Oui.
Alors là, c'est encore du dessin, je dirais, normal, mais qu'on peut trouver. Mais par exemple, vous citez aussi un grand nombre de dessins de presse.
Oui.
Alors là, comment est-ce qu'on trouve ? Donc, il faut dépouiller toute la presse au jour le jour ?
Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a des grands spécialistes du dessin de presse. il y a le Dico Solo qui a fait un travail assez remarquable sur les grands dessinateurs, petits ou grands d'ailleurs, pourquoi je dis grands, sur l'ensemble des dessinateurs de presse, mais il ne ressort pas la conjecture chez chacun. Il l'ignore même. Donc, avec des noms, je prends Gustave Aimard, qui est un grand, Alvelo, qui est un très grand aussi, pour nous, à nos yeux, hein, bien sûr, il est inconnu du grand public. Ils ont fait des tas et des tas de conjectures. Alors après, une fois qu'on a un mot-clé plus son nom, eh bien, ça facilite les recherches sur Internet, les recherches en bibliothèque, que je fais parce que Jo, il ne veut pas. Et puis on a un allié, ça j'y viendrai tout à l'heure. Ça permet de localiser certains nombres de dessins qui ont été ajoutés à la rétrofiction. On considère que la préhistoire est une conjecture romanesque rationnelle. Pourquoi ? Parce que à l'époque préhistorique, il n'y a pas d'écrit, ça se saurait. Donc on imagine que soit le romancier, René est né en tête avec la guerre du feu, soit des dessinateurs de presse ont pris le prétexte de la préhistoire pour faire des dessins rigolos ou des textes rigolos. Ou sérieux d'ailleurs. La guerre du feu n'est pas très rigolote, c'est très sérieux. Pour la science de l'époque aussi. Donc on s'est rendu compte avec les noms des grands dont je parlais tout à l'heure, en associant avec le mot préhistoire, avec le mot caverne, avec le mot je ne sais quoi, rôtifroid, enfin, je dis une bêtise.
Dinosaure, parce dinosaure, qu'ils aimaient
bien les mélanger. Très bien, oui, mélanger les genres aussi. Donc, on est tombé sur un très grand nombre d'occurrences qu'on s'est amusé à lire, à résumer, puisque chaque entrée possède une explication du fait que ça soit bien de la conjecture rationnelle, ça c'est important à nos yeux, du fait que on a fait une bibliographie, on cite bien sûr l'illustrateur quand c'est son nom d'entrée ou quand c'est l'illustrateur de quelqu'un d'autre, d'accord, voilà, et on essaye de faire un extrait. Alors quand il s'agit d'un dessin vraiment sympa, on le reproduit. Quand il s'agit d'un texte, on prend un extrait très significatif pour l'inclure à l'entrée correspondante dans le dictionnaire, pour illustrer le propos, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Je crois que c'était... Si, absolument. Alors, là, je dirais que pour l'instant, on est dans des entrées, entre guillemets, un peu classiques, hein, des auteurs, des illustrateurs, etc. L'une des énormes richesses de ce livre, c'est toutes les entrées sur des sujets totalement improbables, mais qui ont donné lieu à de la science-fiction à un moment ou à un autre. Alors, je pense par exemple.
Tu penses à quoi, ouais.
Alors, ouais, commençons par la vaisselle, parce que ça, parmi les trucs les plus improbables qui soient, les assiettes de science-fiction, j'avoue que quand j'ai découvert ça, je suis resté bouche bée.
On s'est rendu compte qu'il y en avait. D'abord, Pierre Versant en parle dans un de ses articles qu'il appelle assiette décorée ou assiette parlante. Les vrais amateurs de faïence appellent ça de l'assiette parlante. Je n'ai jamais compris trop pourquoi, mais parce qu'il y a un dessin dessus, voilà, tout simplement. Puis il y a une légende sous le dessin. Et puis sur le marli qui entoure l'assiette, il y a aussi des frises qui peuvent laisser à penser que ça puisse être de la conjecture romanesque. Voilà. Et il ne parle que d'une série de 1895, grosso modo. Il n'avait vu, lui, que cette série de 12 assiettes. Très belle, hein. C'est Draner qui a dessiné ça, c'est magnifique, des couleurs splendides. Voilà. Mais ça fait que 12 occurrences. Et moi, j'ai continué à chercher d'autres. Et j'ai un copain, qui est Piero Gondolo della Riva, que tu connais un peu, qui a pris goût en voyant ma collection, qui s'est mis à en chercher. Comme il a une fortune absolument colossale, il dépense sans compter, et il m'a rattrapé en 3 ans. Et il a continué avec des pièces que je ne pouvais pas me payer. Donc je suis allé chez lui pour autre chose et pour ça. Et là, ça permet d'avoir une bonne idée déjà de l'ensemble de ce que représentaient les assiettes de science-fiction archaïque. Oui, il y a plein de séries. Il y a une série magnifique sur la guerre future. Ça parle de soi-même. Guerre future, ça ne peut pas être autre chose que la conjecture romanesque et rationnelle. Enfin, romanesque, pas trop. Mais
alors, donc, au total, on peut faire un dîner de combien de couverts avec des assiettes de science-fiction ?
Alors, à condition de mélanger les gens, ça peut faire presque 200 personnes.
Ah, bon. On pourra peut-être suggérer un banquet aux Imaginales.
Alors, il faudra demander à Pierrot, parce que moi, il ne faut pas compter sur moi pour prêter mes assiettes.
Alors, les assiettes, ça, c'est quand même très, très étonnant, mais il y a d'autres
choses. C'est très spectaculaire, oui.
C'est très spectaculaire. Oui, c'est pour ça. Et puis, vraiment, c'est un sujet auquel on ne s'attend pas.
Oui,
un support, disons,
oui,
auquel on ne s'attend pas.
À tel point que tu m'avais demandé de faire une exposition à Sèvres, qui est le lieu emblématique de la faïence et de la porcelaine, voilà. Pour faire une exposition lors d'un festival de Sèvres.
Où là, il a accepté quand même de prêter quelques pièces.
Oui, prêter.
Ainsi voilà. qu'Alain Grousset, qui est un
Alors, des Alors voilà, on a partagé cette responsabilité énorme à deux, parce que ça faisait jamais que 30 ou 40 assiettes chacun pour partager les risques. Voilà.
Voilà. Alors, il y a d'autres supports aussi qu'on découvre dedans.
Les bons points.
Les bons points.
Il ouais, y en a plein.
Et il y a tout un tas de supports comme ça dont on se demande même comment ils ont pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Alors, les bons points, par exemple.
Alors, ils ont survécu parce qu'il y a des amateurs de tout ça depuis pas mal de temps. Donc, on est au courant. Je veux dire, ça fait quand même 45 ans ou 50 ans qu'on cherche ça. On est au courant des gens qui le cherchent. Ne serait-ce qu'en fréquentant les asiles psychiatriques, ça aide beaucoup aussi. Donc, on est au courant de tout parce que c'est un monde très, très petit, relativement fermé, et on est au courant chacun des collections des autres. Donc, ça permet aussi de rassembler les occurrences et de faire des entrées qui tiennent la route, quoi. Il y a un autre aspect, c'est qu'il y a eu, à un moment, l'imprimeur de ces bons points qui date de 1904, quand même, c'est pas hier, c'est vraiment avant-hier, a ressorti de ses ateliers, par quel miracle, je n'en sais rien, des planches complètes. Donc, grand format, ça se conserve beaucoup mieux que les bons points qui étaient donnés aux écoliers ou dans les familistères, qui étaient jetés dès qu'on arrivait à la maison, parce qu'à l'époque, ça présentait aucun intérêt. Donc, ces planches entières qui sont en chromolithographie, c'est quand même aussi d'un bel ouvrage, sont absolument somptueuses et donnent envie de les garder plus que les bons points en question. Donc quand on est arrivé à rassembler, il y a 78 vignettes dans la collection de l'an 2000, parce que l'an 2000, en 1904, c'était une conjecture, hein, on est bien d'accord, même si c'est passé pour nous. Ce qui nous permet de vérifier qu'ils se sont trompés ou pas, aussi. Voilà, donc ça permet d'avoir accès à des collections qui autrement auraient disparu corps et biens. C'est aussi le cas des fascicules. Des tout petits fascicules, pas ça. Des fascicules qui étaient édités d'ailleurs avec un format très petit qui permettait de rentrer dans la poche de la blouse. Vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune, mais on en avait tous des blouses grises à l'école et les pions nous surveillaient nos lectures. Donc c'était fait pour être planqué dans la poche de poitrine des blouses. Les éditeurs ne s'étaient pas trompés. L'embêtant, c'est que c'était aussi beaucoup jeté, alors par les pions qui chopaient les élèves ou par les parents qui, au retour à la maison, balançaient les petits fascicules en question. Et toutes les éditions Talandier, Ferenczi, et tout, qui ont beaucoup œuvré pour la fiction ancienne, ont été mis à la poubelle, tout simplement. Donc, reconstituer des collections comme ça, c'est pas simple. D'autant plus que les conservateurs des bibliothèques d'État, je vous dis pas... leur état d'esprit, en voyant ça, c'était hors de question de conserver ce genre de choses. Donc ça partait systématiquement à la poubelle. Donc voilà un autre sujet de recherche qui nous tiennent à cœur.
Alors il y a aussi les couvertures de cahiers.
Alors il y a des... Ce n'est pas des couvertures de cahiers, ce sont des protèges-cahiers.
Oui, voilà, pardon, voilà. Des protèges-cahiers.
Oui, tout à fait. Alors c'est... J'explique, hein, pour les jeunes, on avait des cahiers d'école et il fallait les protéger des agressions extérieures, de la tache d'encre, des choses comme ça. Et puis ça permettait de mettre son nom. Et puis à l'arrière, il y avait quand même un pense-bête important, il y avait les tables de multiplication. Ça permettait de tricher aisément sans se faire voir. Donc c'est un papier de grande dimension qui permettait avec des rabats de couvrir les cahiers scolaires. Et il en existe une bonne quinzaine de fictions anciennes, oui. Avec des robots, avec... des fusées, avec des extraterrestres, avec voilà. Je ne suis pas absolument certain que l'ensemble de ces protège-cahiers qui sont cités dans Rétrofiction sont tous d'avant 1951. Il peut y avoir, et ça sera la limite du sujet, il peut y avoir quelques-uns qui sont après. Mais comme ils ne sont pas datés, bah, on estime que ça nous arrange, voilà. On les met dedans.
Alors les écoliers étaient une cible de choix parce qu'il y avait aussi les buvards.
Il y avait quelques buvards, oui, oui, on en a trouvé tout autant. Alors, même réflexion pour les buvards qui ne sont jamais datés, sauf si l'élève s'était appliqué à mettre la date du jour sur son buvard, même à l'envers, parce que quand il passe sur l'encre fraîche, ça peut imprimer. Il suffit de le lire dans un miroir, comme Léonard de Vinci, mais c'est moins précieux. On trouve des buvards avec ce sujet-là, oui, des soucoupes volantes. Alors, pareil, avant 51, je ne suis pas du tout certain que ça puisse être daté d'avant 51. Mais d'autres sujets, oui, les robots existent dans la littérature depuis bien plus longtemps. Donc là, ils ont été repris sur certains buvards, oui, c'est très rigolo. Les Martiens, voilà, ainsi de suite. Mais là, je peux que vous encourager à ouvrir les deux fascicules.
Alors, il y a aussi les cartes postales.
Beaucoup de cartes postales, beaucoup. Au début, j'y croyais pas trop. Et puis, c'est un peu comme pour les assiettes. Quand on met le doigt dedans, ben, c'est un engrenage. Mais par contre, j'ai commencé à chercher bien avant les assiettes. Donc, oui, on peut dire que j'ai une grosse collection de cartes postales d'anticipation, la plupart du temps, d'anticipation militaire, c'est-à-dire des guerres futures qui sont imaginées, qui sont absolument superbes. Pas la guerre, hein, les cartes. Et d'autres sujets, le carnaval de Nice en l'an 2000, voilà, je parle d'anticipation, mais ça peut couvrir plein de sujets. Des villes imaginaires du futur, voilà, Anvers en l'an 2000, New York en l'an 2000, même si c'est édité en France, et ainsi de suite.
Et alors, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a un certain nombre de cartes postales, manifestement, ça a dû être une mode à un moment. Donc c'est effectivement ces villes du futur, mais à partir d'une image de la ville contemporaine à l'époque, oui. Et on rajoute des dirigeables, par exemple.
Alors, voir des avions furtifs, oui, ça va jusque-là. Des chemins de fer suspendus, des véhicules automobiles un peu bizarres. C'est surtout axé sur les modes de transport, bien entendu. C'est comme ça qu'ils imaginaient leur futur à eux, oui. Mais toutes les villes d'Europe, on peut considérer qu'elles ont été vues dans le futur. Alors, il y a une série célèbre sur Turin qui est inondée et qui, bien sûr, est futuriste. Mais là, on n'a pas pu la mettre parce que Turin, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas en France, voilà, ou ni même en Suisse.
Sinon, il y a aussi un support, moi, qui m'a paru, alors là, encore plus invraisemblable quelque part que les assiettes, ce sont les éventails.
Alors, il y en a très peu, mais oui, il y a des éventails. Il y en a au moins deux de cités. Il y en a un qui reprend une image, une gravure célèbre d'un tunnel sous la Manche, mais qui est fin 18e. Donc, c'est une conjecture absolue, oui. Ce sont des projets d'éventails sur des cartons arrondis. Donc, c'est une espèce de maquette, si l'on veut. Et puis, la difficulté, c'est de retrouver l'éventail lui-même, parce que la maquette, elle a été reproduite dans pas mal de documents. Grande Carteret s'était fait une grande idée de rassembler tout ça. Mais l'éventail lui-même, en soi, là, bonjour, la trouvaille, oui. Il y a les images d'Épinal, pour parler région, qui reprennent soit des voyages imaginaires, soit des utopies un peu rêvées. L'Icarie, par exemple, elle est représentée sur les images d'Épinal. Des légendes rationalisées, des vues futuristes, et surtout la domotique. C'est-à-dire, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, bien entendu, mais c'était la maison mécanique ou la maison électrifiée. Ça a fait fureur dans les années 1890-1900, jusqu'à la guerre de 14. C'est vrai que la guerre de 14 a freiné considérablement ce mouvement de délire absolu et de croyance en la science, parce que il faut bien dire que jusqu'en 14, la science était vu au pinacle de tout le monde. Peu de gens l'avaient fustigé, sauf peut-être l'arrivée de la vapeur et avec la SNCF, enfin la SNCF, avec les trains, où là il y a eu quand même des réticences, mais le progrès aidant, ça s'est généralisé. Oui, oui. Voilà ce que
le train d'abord
là-dessus.
Et puis l'automobile ensuite.
Alors l'automobile ensuite, alors beaucoup plus tardivement, mais elle a été imaginée comme étant quelque chose de très utile. Les voitures volantes apparaissent dès les années 30-40, c'est clair. Alors, est-ce que c'est de l'aviation, est-ce que c'est de l'automobile? Je vous laisse le choix de conclure.
Et il y a aussi les bicyclettes étranges. La bicyclette a fait fureur.
Oui, ben, elle a fait fureur avant même d'être conjecturée. C'est-à-dire qu'il y a eu une mode, Wells y a été pour beaucoup pour la populariser, dès la fin du 19e et même un peu avant. Il y avait des régiments de cyclistes imaginés pour faire des... Comment est-ce qu'on appelle ça ? La télécommunication. C'est-à-dire qu'ils se postaient à un point, après 3 km plus loin, à un autre point, et ils permettaient d'avoir des conversations radio pour aider l'état-major sur la situation du front. Alors ça a été vrai en 14, mais c'est anticipé de presque 20 ou 30 ans dans la publication de journaux, y compris de journaux spécialisés. J'allais dire presque surtout de journaux spécialisés. Zamakoïs, par exemple, s'est fait un point d'honneur à extrapoler tout ça. Il a fait des dizaines de dessins sur ce sujet, oui.
Alors, parlons un petit peu, parce que l'heure tourne quand même très vite.
Mais on peut rester une heure de plus si oui. Ces gens-là...
sont... Je ne suis pas sûr que la table ronde d'après apprécierait vraiment.
Mais ils n'ont pas le choix.
On pourrait peut-être parler un petit peu des index, parce que les index, et en particulier les index thématiques, comme machine à rêver, on n'a pas inventé mieux.
Alors merci des compliments, mais c'est quand même le résultat d'une fainéantise. Alors ça peut paraître paradoxal quand on voit l'épaisseur des volumes, mais on s'est refusé avec Jo de faire des entrées thématiques, parce qu'on a vu le piège que ça pouvait être. Là, la grenouille devenait 10 fois le volume du bœuf, et en plus, c'est une chose trapue et terrible. Donc, on a contourné, parce qu'on ne pouvait pas passer à côté non plus, mais on a contourné le problème en créant un index thématique. C'est-à-dire qu'on a voulu indexer tous les robots, voilà, jusqu'en 51, bien entendu, tous les vols stationnaires, tous les ballons dirigeables extrapolés. Enfin, il y a un grand nombre de... On n'appelle pas ça des entrées, mais de thématiques, de sous-thématiques également, parce qu'on précise, on parle de pieuvres, par exemple, carnivores ou autres, qui sont de la cryptozoologie que tu apprécies. On a détaillé les attaques en surface, les attaques au fond, on a voulu être assez précis.
Les poulpes terrestres.
Oui, les poulpes marins, les poulpes d'eau douce, enfin bon, l'imagination humaine étant sans limite, on a pu faire du sous-détail. Eh bien, ces thématiques ou sous-thématiques renvoient à des suites de numéros qui peuvent être parfois très longues. Hein. Je plains le lecteur qui voudrait vraiment tout lire. Et ces numéros ramènent un second index qui est la liste des titres, tout simplement, avec en face du numéro concerné. Ce titre renvoie à un auteur, et c'est cet auteur-là qu'il faut aller chercher dans le dictionnaire pour savoir si le sujet qui vous passionne est bel et bien traité. Alors j'ai fait plusieurs vérifications avant de donner à l'éditeur, ça fonctionne très bien. J'ai eu chaud. Quoi.
Je l'ai fait effectivement pour la cryptozoologie,
oui.
Pour certains
T'as
animaux.
Bien rigolé, oui.
Voilà, et c'est vrai que ça fonctionne très bien.
Ouais.
Mais alors, établir un index comme ça, comment est-ce qu'on choisit, en fait, les thématiques? Parce qu'il y en a, je me souviens plus, plusieurs centaines.
Il y en a
déjà.
800.
Voilà.
Oui, 850, enfin oui, quelque chose comme ça.
Mais qui représente qu'une partie de ce qui aurait pu être fait, je suppose.
Alors oui, mais ce qui nous a guidés, c'est un peu les ouvrages de Blyler, père et fils, oui. Qui sont des érudits américains qui travaillaient à la plume et au crayon et à la cartoline, enfin, ouais. Je ne sais pas comment on appelle ça, à une époque où l'informatique n'existait pas. Donc, on s'est inspiré de ces thématiques qu'eux ont encore plus détaillées que nous. C'est fou parce que certaines, il n'y a qu'une seule occurrence. Donc c'est dire à quel point de finesse ils sont parvenus, ça devient presque inexploitable, à l'extrême rigueur. Donc on a pris les points les plus importants, de 2 ou 3 000 chez eux, on a réduit à 850-900, y compris avec les sous-thèmes, bien sûr. Et ces thèmes-là qui sont suivis de cette liste de chiffres dont je te parle et qui ramènent au titre des ouvrages, eux-mêmes ramenant aux auteurs. Alors par contre, on a voulu aider, parce que c'est quand même un outil, c'est fait avant tout pour être un outil, aider les futurs historiens parce qu'on ne se prétend pas du tout historien, on a juste fait une compilation d'ouvrages et de dessins et de BD et tout ce qu'on veut, mais c'est dans l'espoir d'aider quelqu'un qui voudrait s'atteler à l'histoire, petite ou grande, de la fiction ancienne. Ça lui permet, par le biais des index, s'il veut détailler un moment, de pouvoir travailler. Pour l'aider encore plus, on a repris cette liste de titres et on l'a classée chronologiquement. C'est-à-dire qu'on part de 1532, qui est Rabelais dont tu parlais, Pantagruel, et on descend jusqu'à 1951. Ça fait 11 000 lignes quand même, c'est pas rien. Et ça permet de l'aider dans la chronologie. Surtout que la plupart des gens ont gardé présent en tête l'idée que Ravage était sorti en 1944. Pour prendre un exemple connu de Barjavel. En fait, non, il est paru 2 ans avant dans la presse. Donc, la date que l'on donne, nous, quitte à passer pour fausse, est celle de 42, parce qu'elle est parue dans la presse avant. Le volume n'étant, lui, que sorti en 1944. Donc, mettre une fausse date pour nous, qui pourrait être la vraie pour les gens, permet de recaler chronologiquement la bonne occurrence au bon endroit. Parce que dans la littérature de fiction, l'important, c'est l'histoire des idées. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque auteur de fiction, c'était vrai aussi à l'époque, se nourrit du texte de ses prédécesseurs. C'est unique dans l'histoire de la littérature. Il n'y a pas un roman dit blanc, enfin, je ne sais pas comment on l'appelle.
C'est littérature blanche.
Littérature blanche, qui influence à ce point les collègues, parce qu'ils sont plutôt concurrents que collègues et que amis. La littérature de science-fiction, elle, fait ça. C'est-à-dire que les lois d'Asimov, par exemple, ont influencé tous les autres auteurs après lui, se référant à ces lois. Eh bien, on peut considérer que dans la fiction ancienne, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les gens qui ont imaginé des avions volants à ailes battantes, pour prendre un exemple un peu, non pas ridicule, mais rigolo, les auteurs suivants, soit ça a tué dans l'œuf cette idée, ce qui est tout à fait possible, soit ils ont repris le concept et l'ont utilisé dans d'autres romans, quasiment en se référençant du premier. C'est quand même un hommage rendu. Et ça nous permet, ce travail pourrait donner envie à quelqu'un de faire cette continuation des idées romanesques dans la fiction ancienne. Et ça, si on peut contribuer au moins à ça, on n'aura pas perdu notre temps.
Il y a quelques chercheurs en ce moment.
Alors, on a été stupéfait d'apprendre que, je peux le citer parce que il en prendra pas ombrage, on peut aussi le dater comme étant le premier utilisateur en direct de l'index, trouvant ce qu'il cherchait, c'est quand même pas mal. C'est Laurent Genefort pour une uchronie qu'il voulait mettre au point, et il voulait savoir quelles étaient les occurrences d'avant l'idée qu'il avait eue. Eh bien, il a trouvé ce qu'il cherchait en utilisant l'index. On a pris ça comme le meilleur des compliments possibles. En direct sur France Culture, avec la présence de François Angelier, qui pourrait témoigner, si besoin était, de ça. Donc ça nous a fait bien plaisir, oui.
Absolument. Alors, on arrive quasiment à la fin. Moi, j'aurais une question pour vous. Après 40 ans, résumé quelque part, hein, 40 ans de lecture et de collectionniste, disons-le quand même, tel que, et résumé là-dedans, parmi ces presque 12 000 entrées, quelle est votre favorite ?
Les réponses vont être différentes, que ce soit Joe ou moi. Moi, j'ai un faible. Oui, j'ai un faible pour Marius Monnier, que Jean-Luc Buard s'est empressé de rééditer dès qu'il a eu lu les premiers tomes de Rétrofiction.
Donc, ça sert bien à Rétrofiction.
Oui, effectivement. Alors, lui-même avait détecté un texte de Monnier avant même l'apparition de Rétrofiction. Il m'en avait parlé. C'est De Paris à Montbaza, paru dans la Belles Images, qu'il avait envie de rééditer à un moment. Et puis, nous, on a trouvé une bonne dizaine de textes. Il s'illustrait lui-même. C'est ce qui fait le côté intéressant de Monnier, c'est qu'il s'illustrait lui-même et il s'illustrait très bien. Et après, il a eu un tel succès qu'il a été obligé de demander à d'autres dessinateurs d'illustrer ses romans à lui. Donc, c'est dire le succès que ça devait représenter à l'époque. Donc je mettrai Marius Meunier parmi les favoris, même si ce n'est pas mon préféré, bien entendu, mais par sa production importante et de qualité, de dessin et de texte. Voilà. On parle de Robida au 19e parce qu'il est immense et il est bien traité dans Rétrofiction, bien entendu. Mais Meunier est quelqu'un qui n'était absolument pas connu et qui ressurgit un peu, y compris, bien sûr, par les rééditions de Jean-Luc Buard, grâce à Rétrofiction, oui, c'est vrai. J'ai un autre chouchou qui est Julien Mauvrac, pour des publications en fascicules qui sont absolument pas faciles à trouver, mais qui m'ont complètement soulevé d'enthousiasme. Oui, ça vaut vraiment la peine.
Voilà. Bon, ben, donc espérons qu'un éditeur, là aussi, va se décider un jour
Alors,
à le rééditer.
Les éditeurs dont nous parlons, là, qui ont réédité Meunier ou d'autres, sont des éditeurs relativement confidentiels. Mais ils sont tous confidentiels. Il n'y a pas de grands éditeurs, ce n'est pas Hachette Gallimard qui va nous demander la réédition d'un texte de Rétrofiction. Mais par contre, oui, il y a plein de micro-éditions qui se font un point d'honneur à mettre à leur catalogue ce type de roman, oui. Y compris quand ils sont illustrés, ça, c'est plus commercial, disons.
Bien, et bien donc, il nous reste qu'à espérer que Rétrofiction va continuer sa carrière et influencer un grand nombre de ses éditeurs. Et à vous remercier, Guy Cosse, pour nous avoir parlé de ce monumental ouvrage qui est une source constante de plaisir. Moi, j'avoue que ce que j'aime, c'est le feuilleté au hasard.
Ah, mais il est fait pour ça.
Voilà. Merci beaucoup, Guy Cosse.
Merci, Jean-Luc.